Alors, on est prêt ?
On est prêt.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Sortez-vous ?
Bonjour, je m'appelle Julien.
Alors, quel est votre film préféré, Julien ?
Un de mes films préférés, c'est Podium.
Ah, Podium !
De Yann Moix.
Ah.
Donc, c'est un peu particulier. Hein. Là, on est à Orléans à rentrer en fête. C'est absolument pas volontaire. Le fait que Yann Moix soit d'Orléans fait pas que ce film est bien. Je pense que le fait que Yann Moix fait ce film ne fait même pas que ce film est bien. Ce film est bien.
Alors,
pour le casting d'acteurs.
Ouais.
Benoît Poulvorde, Julie Depardieu, Jean-Paul Rouve.
Alors, c'est quoi Podium, l'histoire
Podium, c'est l'histoire de Bernard Frédéric, qui est le meilleur sosie de Claude François de tous les temps. Sauf qu'il a arrêté d'être sosie. Il s'est rangé pour sa femme, il est devenu agent d'assurance. Sauf qu'en fait, au moment de la nuit des sosies, la passion pour Claude François se réanime. Et Claude l'appelle à redevenir le son sosie officiel et à faire la nuit des sosies. Et donc c'est reparti pour une folle histoire jouée merveilleusement bien par Benoît Poulvorde. J'ai lu le livre bien après.
Ouais.
On ne peut plus imaginer Bernard Frédéric autrement que par Benoît Poulvorde.
Alors, aussi Jean-Paul Rouve ?
Jean-Paul Rouve en Couscous, le meilleur ami de Bernard Frédéric, qui est un personnage assez barré, qui appuie bien, justement, il y a une très belle dynamique entre les deux personnages.
Jean-Paul Rouve, c'est dans le film, c'est qui ?
C'est le sosie de Michel Polnareff.
Alors voilà, maintenant,
imaginez... Et c'est le sosie vraiment non officiel.
Voilà, imaginez bien Jean-Paul Rouve en sosie de Polnareff.
Avec la belle chevelure choucroute et les lunettes de soleil.
Eh ben merci. Merci Julien.
Merci à vous.
À tous les moldus. Écoutez Graffiti Cinéma.
Hé, hey, c'est quoi le texte ?
Comment on dit déjà ?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir ?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha ! Graffiti Cinéma.
Salut à tous, bienvenue dans Graffiti Cinéma, c'est Romaric. Aujourd'hui, je vous présente une émission spéciale, une rediffusion d'importance et à la fois d'actualité, puisque vous allez découvrir dans un nouveau montage inédit une version de notre émission Rugby au cinéma. C'était il y a 4 ans, nous étions dans les studios de notre ancien diffuseur, RCF Loiret, et nous avions réalisé cette émission dans le cadre de la précédente Coupe du Monde. Avec la qualification des Bleus pour les quarts de finale face à l'Afrique du Sud, nous avons décidé que cette rediffusion serait tout à fait à propos pour célébrer, on l'espère, un parcours glorieux jusqu'à la victoire finale. En première partie, donc, découvrez ce nouveau montage avec l'ancien adjoint au sport de la mairie d'Orléans, Soufiane Sancon, qui était notre invité justement à cette occasion pour parler de cette passion et de ce sport qu'il pratique justement au club de rugby d'Orléans-La Source. En deuxième partie, vous découvrez un son inédit avec Eric Toledano et Olivier Nakache pour la sortie d'une année difficile, le 18 octobre 2023.
Ah oui, c'est capital comme tuyau.
Je suis certain que vous êtes ravis de me voir, j'en suis tellement sûr.
Salut les minots. Alors, on n'aime pas bien là, avec les cigales. Fais les cigales. Quelqu'un fait les cigales. Merci. Ce soir, on parle du rugby avec le cinéma. On va pas dire rugby comme les Parisiens. Ce soir, ça bastique, ça va au charbon et ça a des étincelles dans les yeux. C'est souple, pitchoun. Est-ce que je garde l'accent du sud pour la suite ou c'est gênant ?
Jusqu'au bout.
J'ai cru que c'était l'accent du 9-3.
J'essaye. Hein. J'ai fait des efforts sur les accents. J'essaye en tout cas pour présenter une émission autour du rugby et du cinéma. Donc ce soir, pour nous, dans la mêlée, un bon gros pack. Hein. Des bons avants. On va aller au charbon avec ça. Alors, il revient de la rentrée des associations. Il est fatigué comme un pilier français après que 3 All Blacks lui soient passés dessus. C'est Soufiane Sancon, bonsoir. Alors, adjoint au sport de la mairie d'Orléans, mais également fan et pratiquant de rugby au club du rugby de La Source.
Exactement.
Voilà, et donc, c'est évidemment cette qualité et ses qualités, après avoir été champion de karaté, un peu touche à tout, hein, que Soufiane est notre invité ce soir. Il est également avec nous, il a la tête d'un ailier quand le rugby s'appelait encore la Soule. C'est notre fan de rugby et notre consultant de l'équipe, c'est Pierre.
Bonsoir.
C'est très méchant ce que j'ai dit, ouais. Mais j'adore cette vanne. Notre aventurière des salles perdues, celle qui aime tous les films qu'elle voit en salle, seulement quand ils sont compréhensifs, c'est Marianne. Bonsoir Marianne.
Bonsoir.
Qui fait son grand retour pour cette rentrée. Elle est le clone de Joyce Jonathan, mais on lui parle quand même. C'est Laurane et cette vanne suffira amplement. Voilà.
Bonsoir.
Mais voilà.
J'aime pas du tout cette vanne. Hein.
Pas du tout.
Qui est Joy Jonathan?
Je vais vous prendre un gros raffut en pleine tronche.
Ouais, ça je pense. Ouais.
Il a le pull marinière, il a le regard qui tue. C'est Loïc qui est venu avec une de nos chroniques préférées, évidemment. La virgule du lendemain.
Bonsoir.
Alors, la technique, on salue le roi des mignons qui est un peu méchant, mais il est si fort à la technique qu'on l'aime quand même. C'est Hervé Grou. Salut Hervé, et bienvenue pour ta première. Alors ce soir, une belle émission, avec un petit peu d'accent du sud.
Écoutez-nous, si vous ne nous écoutez pas, vous allez voir.
Le rugby au cinéma avec un premier extrait, la bande-annonce du fils à Joe.
Dis papa, quand est-ce que je pourrais avoir un téléphone portable comme tous les copains?
Jamais.
Oh, hé, hey, oh, l'arbitre, investis dans la lunette, hein, oh.
Dans la famille, le rugby, c'est plus qu'une religion, c'est un devoir familial.
On va remonter une équipe de rugby. Et toi, Tom, tu vas leur montrer qui t'es et d'où tu viens.
Et malheur à celui qui casserait le moule.
Dès ce soir, je t'apprends à plaquer, moi.
T'as pas bien compris, ça sera sans moi.
Hein?
Chef, je crois qu'on a les deux gagnants de la tombola, là. Allez, allez, c'est rigolé, vous me sortez les papiers
à
du véhicule.
Tombola. Chaque fois que je sors, je bois beaucoup et je les perds, donc je les prends plus, comme ça... Ben, j'ai peur plus.
Alléluia! On est tombé sur deux petits comiques, là.
Tu sais qui c'est, là? Non. Des seigneurs. Dis-moi, la mère du petit, là, t'en as fait quoi, toi?
Des seniors, avec l'accent du sud. Alors c'est Philippe Guillard qui réalise le fils à Joe en 2011. Alors Philippe Guillard, de la troupe de Canal+, hein, qui chroniquait notamment le rugby quand Canal+ avait encore les droits d'ailleurs. Mais bon, ils ont été un petit peu grignotés. Et il a réalisé ce film avec une troupe de rugbyman, ce qu'on reconnaît tous dans le film quand on connaît bien cet univers, qui présente l'itinéraire d'un père, hein, qui essaye de convertir son fils au rugby, sauf qu'il s'y prend très mal, avec aucune pédagogie. Et il est en train de l'écœurer du monde de l'Ovalie. Alors le fils à Joe, je voulais lancer notre thématique avec justement cette question toute simple. C'est quoi le rugby au cinéma? On va se poser ces questions-là, mais d'abord avec notre invité, c'est quoi le rugby tout court? Est-ce que c'est une philosophie avant qu'on réfléchisse à un sport qui va orienter vers le combat collectif? Qu'est-ce que tu as cherché en premier, Soufiane, quand tu as voulu pratiquer le rugby?
Moi, je suis tombé par hasard, en fait, puisque, comme ça a été dit en propos liminaire, allez, à la base, je suis surtout un karatéka, donc j'ai commencé cette discipline à l'âge de 12 ans, j'ai arrêté à l'âge de 30 avec beaucoup de compétitions et je me suis mis au rugby je suis allé visiter un stade un jour avec ma femme qui pratiquait le rugby à l'étranger puisque ma femme n'est pas française lorsqu'elle s'est installée à Orléans, j'ai découvert le club de la Source, c'était le seul club dans lequel il y avait une équipe féminine et puis j'ai joué un petit peu avec eux ce soir-là et puis le lendemain je suis revenu avec mes crampons, ma tenue et tout machin pour m'entraîner avec les seniors puisque c'était un entraînement mixte auquel j'avais assisté et j'ai découvert cette discipline et ce qui était marrant c'est qu'en fait moi j'étais complètement entraîné dans mon sport, hein, les sports de percussion, de combat, et le lendemain, je me suis retrouvé avec des courbatures que je connaissais pas. Je me suis sorti de mon lit, j'ai fait waouh, qu'est-ce qui se passe?
Tiens, il y a des muscles là aussi.
Non, mais c'est des contraintes biomécaniques qui n'ont rien à voir avec ma discipline de formation, et du coup, ça a été une super surprise. Et j'ai découvert aussi cet univers par la suite qui n'a rien à voir avec celui des arts martiaux. Alors je côtoie beaucoup aussi les judokas, les boxeurs, etc. Mais c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'il y a un état d'esprit. C'est une communauté. C'est réellement ça. Il y a une solidarité qui est énorme entre rugbyman. Et puis après il y a la particularité des matchs, bien évidemment à la troisième mi-temps, de la façon dont on se retrouve, dont on échange, dont on se chambre. Moi je suis un gros chambreur, donc voilà.
ça colle bien.
et c'est vraiment pour côtoyer beaucoup de sportifs dans un paquet de disciplines différentes, si ce n'est pratiquement toutes, le rugby c'est vraiment à part.
Oui. Alors, on va rebondir là-dessus. Justement, Pierre, toi qui es un grand fan et un grand suiveur de rugby, pratiquant également, première ligne.
Ça serait dangereux pour ma santé.
Non, mais moi, je vois bien deuxième ligne ou ailier.
Ah oui.
Alors, il a l'air grand. Tu mesures combien?
Oui, mais alors, je suis pas épais, donc les ailiers maintenant sont.
Le rugby accepte tout le monde.
Ouais, rugby, enfin, tout le monde.
Mais je l'ai déjà vu courir.
De moins en moins avec la professionnalisation du rugby, justement, de moins en moins.
Tu peux jouer en amateur, ça va aller. Hein.
Il y a aussi des porteurs de serviettes et des coupeurs de citron.
Hein. Pourquoi pas alors?
Alors pour les citrons, il est aussi très fort.
Non, mais c'est vrai qu'on
est sur la philosophie. Est-ce que ça, et on va rebondir sur le cinéma, cette philosophie-là qui est très développée dans le fils à Joe, hein, qui est vraiment le film de la philosophie du rugby avec tous les clichés. Effectivement, on en parlait la troisième mi-temps, l'alcoolisme très poussé. Est-ce que ça, finalement, c'est compatible avec le cinéma? Est-ce que toi, tu te retrouves dans cet univers qui serait adaptable dans un film.
En tout cas, c'est vrai que c'est les images qu'on a du rugby, la solidarité, la camaraderie, les troisièmes mi-temps. Mm-hmm. Après, c'est vrai que le rugby, à l'échelle amateur, c'est peut-être encore ça. À l'échelle professionnelle, ça l'est de moins en moins. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a une tension, peut-être, au sein du sport même, avec justement les pertes de valeur d'un certain rugby. Alors, est-ce qu'un film comme ça, c'est pas aussi une occasion de revenir un peu aux sources de ce qui ferait l'esprit rugby, quitte un petit peu à empiler les clichés. Moi, j'ai pas vu le film, je suis allé voir la bande-annonce, et bon, c'est vrai que...
Ah, je l'ai vu hier soir, hein, j'étais passé à côté.
Soit on est gentil, on dit c'est le bonheur dans le pré avec un ballon ovale.
On peut dire un peu de ça.
Soit on est méchant et on dit c'est les franchouillards un peu beauf avec un ballon ovale.
Le film, en tout cas, le Fils à Joe que je conseille en VOD, hein, effectivement, c'est ce retour-là. Effectivement, il y a un peu d'idéalisme sur certains aspects, mais il raconte finalement quelque chose de très présent dans le rugby, que tous les fans et les suiveurs et les pratiquants de rugby mettent en avant. C'est vrai que c'est cet esprit de solidarité et de groupe qui est vraiment tout le temps mis en avant.
Dans une région bien marquée aussi, oui. le Sud-Ouest,
eh oui.
terre de rugby. Je pense que le film se situe
c'est exactement
aussi
effectivement,
dans cette région-là.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
Ouais,
et puis avec Vincent Moscato, qui justement illustre un peu ça. Il a été rugbyman, lui, dans les années 80-90.
Ouais,
donc c'était encore le rugby non professionnel. Avec les troisièmes mi-temps agités, que ça soit bagarre, alcool, etc., avec des Anglais notamment. Et donc il joue maintenant, lui, il a une carrière de one-man show d'ailleurs aussi,
qui vient effectivement de là.
Donc,
c'est
du coup, il est dans ce film-là, il représente ça, il est un peu le...
Ouais, tout à fait. Alors, Soufiane, pour te lancer là-dessus, c'est vrai qu'on comprend déjà que c'est un sport totalement à part, et on comprend également qu'il y a une vraie philosophie tout autour de lui. Est-ce que tu as déjà croisé du rugby au cinéma? Une question toute simple, que ce soit du Fils à Joe ou Invictus, qu'on va parler tout à l'heure.
Le Fils à Joe, je crois que je l'ai vu, mais je suis pas retenu.
Ça arrive au meilleur.
Il m'a pas marqué.
Ça arrive au meilleur.
Et Invictus, franchement, moi ce qui me fatigue parfois, c'est l'espèce de patriotisme américain, anglo-saxon permanent, avec une espèce de la morale qui, donc du coup, je l'ai même pas regardé.
Non, mais
j'ai pas été
que...
emballé par la bande-annonce, et puis
on va rebondir juste après dessus.
Il y avait énormément de clichés, en tout cas dans lesquels moi je me trouve pas, même si bon voilà, Mandela, enfin des causes comme qui sont défendues. On sait que le sport est souvent un levier ou un prétexte ou en 72, hein, s'il y a eu une prise d'otage, c'est parce que voilà, c'est un symbole qu'on attaque. Atlanta, c'est aussi un symbole qui a été attaqué.
Oui, les attentats au JO,
voilà,
Dominique
notamment,
ouais, effectivement.
Dominique, voilà, le sport, ça véhicule quelque chose de puissant et c'est aussi un prétexte parfois pour tâcher de passer des messages avec du. Bon, moi j'entends, hein, pour le Fils à Joe, hein, c'est une comédie avec de l'émotion, c'est un peu mélo.
C'est très mélo.
Un peu aussi caricatural. Après, c'est une comédie qui a vocation à marcher et à parler à un type de public qui se retrouve dedans et donc être nécessairement vendeur. Il y a quelques acteurs qui sont très bons aussi. Enfin, moi, ce que j'apprécie, hein, Lanvin, j'aime beaucoup.
Oh ouais, Lanvin,
en rôle principal, ça pose.
Par contre, là où je te rejoins pas, c'est quant au rugby et la façon dont potentiellement il pourrait dévier. Moi, je crois que c'est une discipline qui aura du mal à... Effectivement, il y a le rugby amateur pour lequel ça peut être considéré parfois comme étant de la beuverie et qui n'est pas nécessairement le cas non plus. Hein. Il y a des fêtes, il y a des fêtes qui se font, il y a des moments de célébration ou de on va oublier la défaite tout simplement. Ouais. Mais en tout cas, c'est très rassembleur. Et par contre, pour ce qui est du rugby qui correspond aux strates qui sont les plus professionnels, donc à partir de la F1 ça rigole plus. F2, F1 ça commence à plus rigoler. Pro D2 ça rigole pas du tout. C'est-à-dire que les gens ils sont préparés, ils sont entraînés.
Donc voilà, là, on est dans les 3e, 4e échelons nationaux.
Ouais, c'est ça,
hein,
ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et l'engagement, les contraintes biomécaniques, physiques, physiologiques, les capacités cardiovasculaires doivent être en corrélation avec les objectifs de performance.
Donc c'est plus le rugby de papa
qu'on
voit dans le Fils à Joe notamment.
Ouais. L'engagement il est total.
Ah bah, complètement,
c'est aussi critiqué aujourd'hui.
Hein. Ah
bah, ouais. Là, il y a un nouveau règlement qui vient de tomber là, pour la saison qui arrive. Donc nous, on en est sous le coup, en tout cas à la source, jusqu'à la Fédérale 2, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de plaquer au-dessus de la ceinture. Mmh. Et à partir de la Fédérale 1, on aura le droit, Fédérale 1, Pro D2 et Top 14. Donc la fédération se cherche.
Il y a moins de licenciés, il y a une baisse des licenciés.
Il y a une baisse des licenciés.
Le rugby tue, il y a quand même eu plusieurs cas là récemment.
Ouais, il y a plein de disciplines
ça,
qui
ça
tuent.
Ça
moi, j'ai pas les stats, mais il y a beaucoup de gens. Après, le nombre de licenciés qu'il y a au rugby, il faut voir proportionnellement ce à quoi ça correspond. Voilà, après, c'est vrai que c'est... Il y a des fantasmes aussi, hein, des choses qui... je pense qu'il y a plus de gens qui se font croiser au foot qu'au rugby. Oui.
Mais et l'équitation a tué ce week-end.
Oui, 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 c'est vrai. Alors, c'est vrai que, bon, là, on tourne autour de ces thématiques-là et c'est important. On va se demander aussi ce qui manque éventuellement au rugby et pourquoi, par exemple, depuis le Fissa Joe et depuis Invictus de Clint Eastwood, il y a finalement assez peu de films qui évoquent le rugby. On va écouter un bout de la bande-annonce d'Invictus. Elle est assez longue, elle est également très mélo.
Une victoire une victoire.
Invictus. J'ai pas fait latin à l'école. On s'en écoute 30 secondes, on revient tout de suite.
Je remercie les dieux qui me donnent une âme invincible et fière. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme.
Aujourd'hui, le président Mandela prend ses fonctions à Pretoria. Concilier les aspirations des Noirs et les peurs des Blancs.
Souvenez-vous de ce jour, les gars. C'est le jour où notre pays a mal tourné.
Alors, on est de retour dans les studios, on tronque un peu la bande-annonce d'Invictus parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le thème et c'est pour la bonne cause, hein, effectivement. Invictus, c'est un autre grand film sur le rugby, hein, puisque là, il y avait eu deux tirs rapprochés. On vient de parler du Fissa Joe 2011 et la philosophie du rugby peut-être un petit peu idéalisée dans le rugby amateur. Là, on est évidemment dans le rugby de très haut niveau puisque c'est la Coupe du Monde en Afrique du Sud qui a participé à l'événement de la réconciliation nationale en Afrique du Sud à l'occasion de la présidence de Nelson Mandela. Alors, on peut faire un petit retour historique en quelques phrases, Pierre, sur cet événement de la Coupe du Monde qui va être remporté par l'Afrique du Sud et qui fait l'objet de ce biopic de Clint Eastwood.
L'Afrique du Sud obtient l'organisation de la Coupe du Monde 3-4 ans après la fin de l'apartheid. Hein. Mm-hmm. Donc ça va être effectivement une façon oui, de réconcilier le pays, de donner aussi une image à l'international d'un pays réconcilié. Pour un sport qui était un petit peu le marqueur justement de cet apartheid, parce que il me semble que les Noirs, en fait, étaient quasiment interdits de pratique du rugby,
oui.
N'allaient pas au stade, étaient même interdits... Enfin, je pense qu'ils pouvaient aller voir les matchs de rugby, mais en tout cas dans des tribunes séparées, etc. C'était un sport essentiellement pratiqué par les Blancs.
Dans la bande-annonce, on voit que les Sud-Africains
contrairement au foot en France,
supportaient l'Angleterre plutôt que l'Afrique du Sud. Enfin bon, c'est vrai que c'était très, très marqué, et c'est vrai que c'est cet événement qui a servi, bon, alors évidemment, qui a été très idéalisé et instrumentalisé.
Ah bah voilà, alors c'est ça, parce qu'en
pour
fait,
mettre en avant ceci.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de partir de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a quelques jours, il y a un quatrième joueur de cette équipe-là, qui s'appelle Chester Williams, qui était le seul ailier d'ailleurs noir de l'équipe, qui est mort là encore.
49 ans, je crois.
De maladie quand même assez mystérieuse. Donc c'est le quatrième qui meurt autour de la quarantaine d'années. Bon, manifestement, il semble qu'ils n'étaient pas à l'eau claire. Et loin de là, l'équipe Sudaf en 95, sachant qu'en fait en 95, c'est une équipe qui n'est pas encore au top niveau comme aujourd'hui. Et qu'effectivement, ils vont battre les All Blacks, notamment en finale. Les All Blacks sont tous malades ce jour-là. Enfin, il y a quand même.
On va avoir des problèmes avec les All Blacks.
Non, c'est un hasard.
Ouais, non, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc, bon, il fallait que Nelson Mandela ait sa Coupe du Monde, quoi. Ouais. D'ailleurs, lui, le rugby, il en avait un peu rien à faire. Il y connaissait rien en rugby. Hein.
Oui, c'est
venu sur le tas. Hein,
ouais, effectivement, c'est présent dans la bande-annonce. Marianne, tu voulais rebondir?
Non, je voulais juste te dire que le film Invictus. Oui, je l'ai vu. Mais quoi que ça parte sur le sport, je l'ai vu.
Non, mais c'est bien, c'est très bien, tu nous sauves la vie.
Non, je voulais juste te dire que le film, ça porte pas tant sur un match de rugby que sur l'enjeu politique du résultat, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, il montre bien dans le film qu'effectivement, les joueurs de l'Afrique du Sud ont assez peu de chance au départ. Il y a quand même peu de gens qui parient sur les chances de réussite de l'Afrique du Sud, quand même. Mais pour Mandela, c'est un enjeu politique et il faut que l'équipe gagne. Voilà. Ouais. Il n'y a pas d'autre.
Le rugby est un prétexte d'enjeu géopolitique. Politique.
Oui, oui, tout à fait.
Mais il n'y a qu'un noir dans l'équipe, je crois.
Les sports sont des prétextes d'enjeux géopolitiques. On n'a qu'à voir l'enjeu qu'il y a dans les organisations de Jeux Olympiques. Et
le Qatar avec la Coupe du Monde, non. Alors, on en parlait, Soufiane, c'est pas le genre de film, même s'il met en scène le rugby et que tu le pratiques, qui donne envie de le voir. Parce que là, vraiment, le discours prend le pas sur la mise en scène du sport qui pourrait être intéressante, finalement, pour des pratiquants ou des amoureux de rugby.
Bah alors, outre le thème, la façon dont c'est amené, enfin, la bande-annonce, monde. Voilà, c'est toutes les caricatures sublissimes des films, des grosses machines industrielles américaines qu'on a l'occasion de voir au quotidien. Il ferait 40 000 fois la même bande-annonce. On change juste le thème.
Ah, il peut faire ça chose. Avec tout. Ouais. C'est vrai que c'est interchangeable.
C'est génial. Vous allez tous mourir. On arrive. Extraordinaire. Et moi, les extraits que j'ai vus, en tout cas, rugbystiquement parlant, esthétiquement parlant, les scènes de rugby que j'ai vues, c'est un folklore, quoi. Ça m'a fait penser un peu à Rocky, quoi, en fait.
Oui.
Voilà, on sait qu'il n'y a personne qui boxe comme ça. En fait, il n'y a personne qui peut prendre autant de coups dans la tronche lors d'un combat.
C'est plutôt cohérent.
Donc, la façon dont c'est filmé, c'est très caricatural, c'est très scénarisé, c'est pour l'image, quoi.
Finalement, on peut dire que le rugby rencontre les mêmes limites techniques vis-à-vis du cinéma que d'autres sports, dont le tennis dont on parle la semaine prochaine, ou le football dont on a déjà parlé. C'est que finalement, le sport est très compliqué. On a toujours pas. C'est une forme de quadrature du cercle pour le cinéma de mettre en scène le sport. Hein.
Sauf la boxe.
La boxe, ouais, effectivement, le
duel.
La
boxe, c'est un sport particulier au cinéma. Mohamed Ali, par exemple.
On a prévu des missions.
Après, il y a les documentaires, c'est pas la même chose, hein, parce qu'il y a aussi.
Harkins, qui est fantastique pour la boxe.
Sur Wilkinson, il y a eu un super documentaire qui a été réalisé.
Voilà.
Après, moi, j'ai vu des extraits d'un film qui s'appelle Mercenaires.
Oui, on va en parler de Mercenaires. On a vu dans la bande-annonce.
J'ai vu que les extraits. Par contre, le peu d'images que j'ai vues, là, ça incarne vraiment du rugby, quoi. C'est comme les films de guerre, en fait. Il y a beaucoup de films de guerre, mais il y a peu de films de guerre qui représentent vraiment, qui se mettent vraiment dans la situation d'une situation, enfin, pour lesquels un militaire va vous dire, une séance de guerre, c'est comme ça. Comme ça que ça se passe.
D'un point de vue très, très technique, très poignant.
C'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Quoi.
Alors, on va parler d'autres films dans la deuxième partie de nos thématiques autour du rugby. On va laisser la place à Loïc avec sa virgule du lendemain. Dans la deuxième partie de cette chronique autour du rugby, on se demandera justement qu'est-ce qu'il manque potentiellement au rugby au cinéma pour que le sport prenne ses lettres de noblesse. On parlera de Mercenaires, donc on vient d'évoquer, qui raconte l'itinéraire justement de quelqu'un qui va traverser plusieurs frontières pour devenir un rugbyman professionnel. C'est son rêve. Et on parlera d'un film un peu improbable, qui avait bien vieilli, qui s'appelle La Soule, un film de 1988. La Soule étant l'ancêtre du rugby, en tout cas d'un point de vue historique, mais comme on a un pro d'histoire autour de la table, il nous confirmera ça très gentiment. On va continuer avec ce thème-là, de toute façon le sport au cinéma c'est quelque chose qui nous intéresse, mais là on va regarder l'avenir avec Loïc.
Moi, visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1981? Ronald Reagan.
Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
Alors, il voit l'avenir et donc il voit les films avant qu'ils sortent. Hein, on le précise toutes les semaines, même si vous êtes des aficionados de l'émission et que vous nous écoutez. Et donc, Loïc, cette semaine, a choisi un film qui sort demain, évidemment, comme toutes les semaines.
Alors, merci Romaric de me faire si gentiment la passe. Alors, ce soir, une chronique, une fois n'est pas coutume, un petit peu machiste et sexiste. Alors,
allez. Bon,
j'évite le plaquage de Doc Teaser. Et je commence. Rugby et cinéma. Deux univers qui se marient avec autant de naturel que poisson et bicyclette. Et pourtant, le langage rugbystique n'est pas si étranger au monde du 7e art. Un rugbyman peut lui aussi faire écran. Dans son cas, c'est interdit. Le cadrage débordement ou le cadrage décalage, c'est des termes qui nous parlent.
Il a bossé.
le geste bras cassé, par exemple, au rugby, est un geste d'arbitre. Et bien, croyez-moi qu'au cinéma, des bras cassés, il y en a des charrettes. Et eux aussi ont leur passage à vide. Donc, c'est aussi... Bon, alors, n'a-t-on jamais entendu des histoires de jeunes actrices en manque de gloire, multipliant les passes sautées et les passes croisées pour... je m'arrête là-dessus.
Marlène vient d'appeler.
Terrain très glissant, là. Couper les téléphones, on n'est pas bien, là.
Je vous vois être épigné. Vous parliez, mon cher Romaric, d'une chronique sur un film que j'aurais vu par la pensée. Mais en fait, non. Aujourd'hui, c'est mieux.
Nickel.
on casse les codes. Je vais vous faire le grand chelem avec pas moins de 6 films à sortir. Ah, j'avais fait 2 déjà.
Non,
3,
non, c'est
mais
beau, c'est
6,
beau.
Là, voilà, c'est une première.
On va bientôt fermer.
Alors, en 1, 2 mois de Cédric Clapiche. De solitude qui peine à faire des rencontres bienveillantes. Bah, imaginez la solitude du joueur avec son ballon rencontrant une défense hostile. On y est là, on y est. Bon, en 2. Un air de famille, c'est le film d'animation. Une équipe de rugby, c'est comme une famille. Que du bonheur, enfin, à condition de ne pas se disputer, ni de faire de caprices, ni prendre le soin les uns des autres. Là, je vous cache pas, j'ai repris exactement la description du film d'animation qui avait sur Allociné.
Ok, bien vu.
En 3, Jeanne de Bruno Dumont. Alors en 1429 déjà, elle pratique le crunch et en combattant les Anglais pour remettre un jeune coq sur le trône de France. Bon, là j'ai dit coq, c'est pour faire rugby. Hein. À l'époque, on disait dauphin. En 4, The Bras de Veit Aylmer. Là, on est dans la folie des troisièmes mi-temps. Alors, partir à la recherche d'une propriétaire d'un soutien-gorge n'est pas une activité bien rare. Hein. En 5, L'insensible de Ivan Trevski.
C'est lui. Bon.
Il est insensible à la douleur. Et le gars, et ben, et après, hein, on va pas en chier une galette, hein, parce que les rugbyman, bah, c'est pas des chochottes non plus.
Non.
Quand on regarde bien. Non, bon, allez, et en 6, un petit dernier. Alors, Mloulk, la guerre du lait de Gnurk Arkinson.
Ah ouais.
Bon, vous regarderez. Non, mais si, ça sort aussi de, demain.
Ça ressemble au Molki.
Et encore une fois, je m'arrêterai là, hein, après. On se retrouve dans l'élevage bovin bourré aux hormones. Un petit air de vestiaire de l'Ovalie.
Allez, fantastique.
Voilà. Et si ces films qui sortent le 11 ne vous plaisent pas, je vous renvoie au 22. Voilà. Combien. Non, mais voilà, combien de femmes au cinéma sont fait aplatir dans l'embute avec introduction dans la mêlée sans ménagement et se font plaquer après avoir eu le ventre comme un ballon? Eh ben, combien d'hommes multiplient les touches pour avoir une chance de tirer un coup entre les perches? Finalement, le rugby, c'est un peu de violence, beaucoup d'amour. Et qu'est-ce d'autre finalement que le cinéma?
Ouais, fantastique.
On se croirait un peu au quotidien quand même, l'émission de télé quotidien.
Mais non, mais pas du tout.
Ils sont payés plus cher que moi.
Attends, franchement.
Marlène Schiappa vient de faire un AVC.
Oui, oui, on n'est pas bien là, on va couper la.
J'avais prévenu hein, en début non, de chronique.
Tu as bien fait de prévenir. 1 minute 30 d'interview de Richard Bourringer qui nous parle d'un film, La Soule, un film de 1988. C'est avec Thierry Lhardisson, hein, ça remonte, hein, on n'était pas nés. On se retrouve dans 1h25 et on continue à parler de nos thèmes avec nos invités.
Il y en a un qui sort début février. T'arrêtes pas, qui s'appelle La Soule. On va d'abord, pour bien expliquer, on va d'abord parler du jeu de La Soule parce que les gens savent pas obligatoirement ce que c'est. C'est un peu l'ancêtre du foot, l'ancêtre du rugby. C'est un jeu très violent.
C'est un jeu très violent, très très physique.
Ouais.
Ben, c'est un jeu qui pourrait ressembler au rugby, mais où il n'y a pas de règles.
Ouais.
Les règles, c'est l'espace. Ça veut dire c'est toute la campagne et toute la région. Là, on peut courir 50 km. Il faut porter la soule d'un village à l'autre. Tous les coups sont permis. D'ailleurs, c'est un jeu qui permettait au village participant à ce jeu-là de régler des comptes.
Le jour de la soule, on pouvait tuer son ennemi, quoi.
Le jour de la soule, on pouvait tuer son ennemi.
Alors, c'est l'histoire d'un militaire. Ça se passe au temps de, après la chute de Napoléon, ça se passe au moment de la restauration. Et c'est l'histoire d'un militaire qui est trahi par un autre, et à la bataille de Vitoria en Espagne, et qui le retrouve après, quoi. Il retrouve le mec qui l'a trahi, qui est devenu cordonnier dans un village. C'est toi.
Voilà.
Le mec, c'est Malavoie. Et tous les deux, vous participez à la soule dans des équipes concurrentes, et puis le mec veut te tuer. En gros, c'est ça l'histoire.
Ça veut dire que moi, j'ai eu peur.
Ouais.
J'ai eu peur de la mort autour de moi, j'ai eu peur de tout ça, je me suis barré avec un cheval. Et puis lui, il n'a de cesse, lorsqu'il va être libéré, parce qu'il a été fait prisonnier, de cesse que de me retrouver.
Ouais.
Et il me retrouvera dans un petit village où on joue à la soule. Et lui aussi va participer à la soule. C'est une façon détournée de régler ses comptes avec moi.
Alors, La Soule est un film de Michel Cibra de 1988. J'ai regardé, il a dû jamais être rediffusé à la télé française depuis cette période où Hardisson était jeune. Je sais pas si vous avez imaginé les gens autour du micro. J'ai vu Hardisson jeune, je commence vraiment à avoir des cheveux blancs. Alors, blague à part, La Soule, bon, bah, c'est du, imaginez un rugby, un terrain de rugby qui fait le Loiret. Qui consiste avec une espèce de baudruche dégueulasse qu'on appelle la soule, de mettre une soule sur le parvis de l'église du village adverse. Les habitants peuvent jouer sans limite dans l'équipe, et évidemment ils peuvent se tataner la tronche à foison, hein, il n'y a pas de problème, tout le monde est accepté, même les animaux. J'avais vu ce film, j'étais très très jeune puisqu'il est de 88, et puis moi justement je suis de 80, donc j'avais une dizaine d'années, et il m'a marqué dans ce film-là, parce que c'est vrai qu'il raconte les origines finalement de ce rugby qui va être évidemment codifié bien plus tard justement dans la petite ville de Rugby, et qui va devenir un sport beaucoup plus noble. Évidemment, vous connaissez le proverbe sur le rugby, hein, et le football, vous vous rappelez de ça? Un sport de brut pratiqué par des gentlemen, c'est le rugby, et le football, évidemment, c'est l'inverse. Ça va de soi et ça coule de source, puisque ce soir on parle de rugby, donc on met le rugby en avant. Alors, La Soule, je voulais vous en parler parce que j'ai cherché des bandes annonces, c'est introuvable. C'est le seul extrait que j'ai trouvé sur ce film-là. Mais je voulais le mettre en avant parce que je voulais vous demander si, du coup, si le rugby au cinéma, à votre avis, peut souffrir du cliché évident autour du rugby sur la rugosité du combat. On parlait tout à l'heure des plaquages qui sont en train d'être codifiés dans les fédérations, des morts et des traumatismes qu'il y a eu les ces dernières saisons. Est-ce que ce combat qui est l'essence du rugby et qui passionne évidemment et qui le rend télégénique peut éviter, enfin lui empêcher de franchir le pas vers le cinégénique, c'est-à-dire en rentrer dans les salles? Alors Loïc ou Sofiane, qui veut commencer? Loïc.
Oui, il me semble qu'au cinéma, c'est pas le combat, l'action et les bagarres qui gênent beaucoup.
Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est vrai.
Quand on voit tous les films de kickboxing là, actuellement, d'arts martiaux et tout ça.
Oui, non, c'est...
C'est pas la violence qui...
C'est une question très ouverte, parce que c'est vrai que pour le coup, je me suis posé cette question-là en me remémorant ce film qui la saoule et l'ancêtre du rugby, hein, on peut le regarder. Mais ce cliché-là sur le combat collectif, est-ce que finalement c'est quelque chose que les cinéastes ont fui ou que des cinéastes n'essayent plus de mettre en scène?
Bah, je sais pas, parce qu'en fait, le propre du rugby, effectivement, moi je bouge pas, enfin c'est pas, pour moi, à mon sens, c'est pas un sport de combat, c'est un sport de duel, de confrontation, d'évitement, sport de combat. Enfin, j'en parlais avec un rugbyman qui a évolué, qui a entraîné en top 14, et on se chambrait comme ça, et puis je dis, mais toi tu joues au rugby, moi je combats. Et la différence est là, et c'est vrai que c'est pas être en tête à tête avec un adversaire, que ce soit en jiu-jitsu, en judo, en boxe thaï, en MMA, et en dualité absolue face à un partenaire, c'est autre chose que quand on est dans un sport collectif dans lequel effectivement c'est rugueux, il y a des impacts, il y a des oppositions qui peuvent sembler violentes. Après, chacun son cadre de référence. Hein. Quelqu'un de très violent, entre guillemets, dans sa façon de pratiquer le rugby, pour certaines personnes, va pas du tout être apprécié en tant que tel par ses collègues. On va dire, ouais, c'est plutôt un technicien, un styliste. On évolue tous en fonction. Et puis c'est marrant parce que quand tu discutes avec des judokas, ils disent, ah, mais jamais je veux faire du rugby. Et quand tu parles avec du rugby, il faut, ah, mais non, mais je veux pas faire du judo, je vais me faire massacrer dans tous les sens. Oui.
Les deux peuvent être compatibles, a priori.
Oui, il y a beaucoup de judokas qui basculent dans le rugby.
Ah, d'ailleurs, dans le football américain aux États-Unis, il y a beaucoup de bloqueurs, l'équivalent des premières lignes, qui ont fait des sports de combat et de la lutte.
Parce que la lutte est beaucoup plus développée aux États-Unis, c'est un sport universitaire, et du sautoir fait judoka, par exemple, il y en a beaucoup qui font du judo, mais non, je crois que l'univers esthétique du rugby, quant aux confrontations, la façon dont ça se passe dans les mêlées, la façon dont se déroulent les plaquages, je suis pas sûr qu'il y ait un cinéaste qui s'en soit saisi et qui soit passionné au point de maîtriser tous les angles techniques qui permettent de valoriser des prises de vue qui rendraient un film très télégénique.
Pourtant, là, on a
c'est pas en tête, assez universel, pourtant, moi, je pense.
Pourtant, il y a beaucoup de choses. Ouais, j'allais venir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises et faites. En même temps, c'est pas universel. Il y a eu un paquet de films de karaté. Le karaté en France, c'est 250 000 licenciés. Le rugby, c'est un peu plus de 300 000, 313, 310 000 licenciés. C'est pas énorme comme fédé. Hein. Quand on prend le basket, c'est 550. Le handball, c'est un peu au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de licenciés. Ça reste malgré tout un sport qui est très pratiqué dans le sud de la France. Et qui a bénéficié d'un sacré coup de boost médiatique via Canal+.
Oui,
qui a fait le choix d'investir,
qui met en avant le championnat,
qui est le à part en Afrique du Sud, voilà, c'est il y a pas un pays où c'est aussi puissant que ça avec le championnat le plus riche de la planète.
C'est vrai que il y a peut-être un côté un peu paradoxal où le pays, la France, qui a le championnat à l'heure actuelle, on peut le dire, le plus puissant, a un des cinéastes qui finalement ne se risque pas, en tout cas, mais
ça ferait pas venir les gens dans les salles. Le rugby c'est pas assez universel à l'échelle de la France et encore moins à l'échelle du monde.
Pourtant là on les a les images quand Soufiane ira contre les mêlées, on imagine une caméra dans une mêlée, enfin, ça pourrait donner des plans de dingue, quoi.
Ouais. Après, je suis pas sûr que ce soit relié à une question d'universalité, parce que si on prend la boxe anglaise aujourd'hui, c'est combien de licenciés en France? C'est 60, 50 000 licenciés. Mais c'est le fantasme que ça suscite par ailleurs derrière, et c'est l'intouchable pour certains, c'est se dire que ça se passe comme ça, et avoir l'occasion de pouvoir pénétrer une phase de jeu et avoir l'impression d'en être aussi, avec des images extraordinaire, c'est ce qui confère, en tout cas à mon sens, la magie d'un film qui esthétiquement peut être réussi, quoi.
Mais il y a plein de films, par exemple, sur la boxe et le foot, en tout cas il y en a beaucoup plus, et pour autant il n'y a jamais...
Mais il y a un paquet de navets aussi.
C'est surtout qu'il n'y a jamais eu un degré de réalisme. En fait, je pense que les films sur le sport n'ont pas vocation à filmer de façon ultra réaliste. Ouais. Le réalisme, on va le trouver quand on regarde le match en lui-même. En fait, c'est la capacité qu'a un sport à dire des choses sur la société. C'est pour ça qu'il y a énormément de films sur la boxe. C'est que les parcours qu'ont les gens dans les films sur la boxe, etc., ils incarnent quelque chose et ça dit des choses sur la société. Je pense que le rugby, même si c'est un sport important, il a pas encore vocation à dire suffisamment de choses sur la société. Alors, après, le degré d'ultra-réalisme dans la façon dont c'est filmé, en boxe, dans le foot, etc. Enfin, en fait, il y a aucun film de toute façon qui est bon. Le seul, éventuellement, c'est le documentaire sur Zidane, le film sur Zidane. On le suit pendant une heure et demie. C'est un ovni. Sinon, ça ne retranscrit jamais le réel d'un sport.
Mais c'est très compliqué.
Et ça n'a pas vocation à cela. Je pense que c'est pour ça que ça n'a pas cette chose sur la société, le rugby.
Après, ce qui nourrit aussi le fantasme, moi je ne sais pas, il y a un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est Sicario par exemple. Moi j'adore ce genre de film là où c'est dans les cartels et tout machin. Et
c'est poignant,
avec des ambiances où moi j'ai l'impression que ça se passe un peu comme ça quand même. Quoi. J'espère que ce n'est pas pire. Hein, parce que c'est déjà extraordinairement violent, pesant. Il y a des films comme. Tout à l'heure, je parlais de films de guerre comme Faucon Noir, qui est aussi un film
La chute du Faucon Noir.
Qui est un film qui, de l'aveu même de ceux qui sont allés au front, disent voilà, c'est un des films qui incarne le plus la façon dont ça se passe sur le terrain.
Bah, on va rebondir sur le réalisme, puisqu'il nous reste 2 minutes pour aborder ce deuxième thème. Hervé va nous mettre en fond la bande-annonce de Mercenaires, qui est un film qui était passé notamment à Cannes en 2016 et qui raconte lui les à côté du rugby professionnel. C'est-à-dire qu'on a la lisière de ce qu'on disait tout à l'heure, le rugby amateur qui se professionnalise. On a quelqu'un qui veut vivre son rêve de devenir rugbyman professionnel et mercenaire. On peut la mettre en fond, Hervé. Et cette bande-annonce raconte finalement les à côté d'un sport qui se professionnalise très vite, le rugby, finalement, parce que le rugby est devenu officiellement professionnel il y a une vingtaine d'années, si je ne dis pas de bêtises.
25 ans, même.
25 ans. Sous l'égide, évidemment, des grands diffuseurs comme Canal+. Et je voulais, en conclusion, vous poser cette question-là. Est-ce que les à côté du rugby, finalement, cette professionnalisation et les bons côtés comme les mauvais côtés de la professionnalisation, c'est pas également un vrai sujet pour un film potentiel? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à raconter ici dans cet univers-là?
Et après, à mon sens en tout cas, parce que chacun a son avis, moi j'ai aucun problème avec ça, et il y a plein de vérités, mais moi je suis convaincu que l'essence même de cette discipline, où alors pour ceux qui le font, qui jouent, savent bien que le sens de l'abnégation, il est absolument c'est pas possible de gagner des matchs si on n'est pas capable de se sacrifier pour l'autre. Et sur les courses de soutien, sur les déblayages, sur les plaquages, sur le fait de devoir se relever pour faire une course alors qu'on est cuit, sur le fait d'être solidaire avec les camarades pour avancer ou pour aller défier l'adversaire, ou quand ça dégénère, il y a des moments de tension, et ben faut montrer que nous aussi on est capable d'être là, et que s'il faut aller au mastic, ben on va y aller. Il y a tellement toutes ces valeurs là. Si on se fait une entorse, on continue, on met du froid et voilà, alors dans d'autres disciplines, out pendant 6 mois. Il y a tellement toutes ces valeurs là que ça me semble compliqué malgré tout que le rugby bascule à ce point. Après, l'un des sujets, c'est l'argent.
Ouais.
L'argent, la reconnaissance.
Un sujet transversal à tous les sports.
Ouais, parce que quand on voit les rugbymen qui sont interviewés, ça se la raconte pas plus que ça, quoi. Les mecs, ils sont humbles.
Oui, ils restent dans un carcan, pas familial, mais en tout cas, il y a toujours ses racines.
Parce que la discipline est dure. Donc, tu fais pas le malin tous les matins, quoi. À un moment, tu peux te prendre des trempes tellement extraordinaires qu'à un moment, tu gardes les pieds sur terre.
Alors, on espère en tout cas que des
c'est ce qui m'arrive aussi certains week-ends. Je peux arriver avec ma ceinture rouge et blanche 6e dan et me retrouver par terre sur les fesses.
Je sais même pas qu'il y avait autant de dan au karaté.
face à un joueur d'un petit patelin. C'est ce que je trouve super.
Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie transversalité entre des sports et des combinaisons parfois qu'on n'imagine pas. On en parlait tout à l'heure, entre sport de combat et puis évidemment le sport de duel et de collectif qu'est le rugby. En tout cas, nous on était très contents de parler de ce thème en ta compagnie, Soufiane, parce que c'est vrai que c'était important pour nous de le mettre en avant. Il y a une vraie actualité avec, et on s'est toujours dit que le rugby, c'est une sorte de parent pauvre parmi des sports comme ça qu'on a un peu loupé le coche. Alors il y a des sports comme le foot qui sont surexposés, qui n'ont toujours pas eu d'immenses films de foot, mais il y en a d'autres qui mériteraient peut-être des sujets. Alors on a imaginé quelques scènes, quelques scripts, pourquoi pas. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à ce sport là dans les prochaines années. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains.
Look upon your greatness as you'll send the call out, 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 send until we live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over.
Une année difficile sort le 18 octobre prochain. Le dernier film d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache présente justement ce mouvement né des Gilets jaunes et récupéré dans une grande comédie populaire qui évoque cette période pleine de tensions, ici racontée avec un regard humain attendrissant qui pourra, évidemment, en tout cas, on l'espère, atteindre les chiffres de leur toute dernière production. On retrouve un entretien en leur compagnie pendant la conférence de presse qu'ils nous ont accordée lors de la venue à Orléans pour présenter le film ces dernières semaines. On remercie d'ailleurs toutes les équipes du cinéma à cette occasion.
J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier.
La situation n'est pas très brillante.
Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore.
Franchement, ça me rassure énormément.
Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, là, on est à la ruche.
J'y vais.
Attends, tu veux pas boire un coup?
Je t'invite.
Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus.
Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit?
Ouais, c'est exactement ça.
Certains prévoient 45 degrés en 2050.
Je suis désolé, hein, c'est un traquenard.
Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite.
Nous, on est vraiment venu pour parler justice sociale avec mon copain, là.
Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît?
C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros.
Je vais te donner 0.
J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées.
Pourquoi t'as remis ton t-shirt?
De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non?
Tu sens l'impact, là?
Ah oui, je sens l'impact. Bon.
Ah,
t'as besoin de thunes?
Oui.
Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va.
Comment ça se fait que le monsieur est passé, là?
Et on fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as 20 balles?
Mais t'es sérieux?
Obéissance à la loi, dispersez-vous.
On ne descendra pas. Viens-nous chercher.
Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Il se passera rien entre nous.
On ne descendra pas. Viens-nous chercher.
Si je suis pas pressé, je peux t'attendre.
On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme.
Objectif !
Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier ? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements.
C'est fort, hein ?
Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi.
Et c'est pas cher.
Et c'est pas cher.
Soit on a vécu une année difficile, ou soit l'année qui suit va être difficile. Et on s'est rendu compte en fouillant dans nos archives que énormément de présidents ont associé ces deux mots dans leurs vœux. Et effectivement, tous les ans, on a l'impression qu'on vit une année difficile. Donc le titre, il s'est imposé très très vite. C'est l'histoire des titres, elle est unique. Chaque titre vient s'imposer, on ne sait pas trop comment. Mais celui-là, il est arrivé très vite.
Vous avez réussi toujours à vous connecter à des grands sujets de société, des grands sujets de fond. Comment vous organisez en fait par rapport à ça? Est-ce que vous avez organisé une veille tout simplement pour arriver à dire tiens, on veut écrire là-dessus, il y a un sentiment qui monte. Comment on arrive à partir de l'idée d'origine en fait de ce projet-là?
En fait, l'idée d'origine, elle part, puisque le cinéma, ça reste de la photographie au départ, comme d'une photo. Et la photographie qu'on avait en tête, qu'on a eue à travers, comme tout le monde, on est pour eux, on regarde la télévision, on lit des livres, on essaie de se cultiver et d'être un petit peu un buvard de ce qui se passe dans la société. On a vu cette opposition entre une génération qui se lève et qui dit à une autre, vous pouvez pas vous comporter comme ça, vous pouvez plus vous comporter comme ça. Et cette image-là, qui est presque une image animale, hein, de cornes qui s'affronteraient, c'est passé par exemple régulièrement, c'est passé devant Total il n'y a pas très longtemps, je sais pas si vous avez vu ces images-là, et elle s'est passée souvent devant des Black Friday, comme un symbole de la consommation, on empêchait les clients de rentrer dans les magasins pour leur dire « pensez aux générations futures ». Et là, on a entendu des phrases. Ça a posé des questions sur cette éthique de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on laisse après nous? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? On a nous-mêmes des enfants qui commencent à être plus qu'adolescents, qui ont un discours auquel on s'intéresse. Et tout ça a généré des réflexions. Et on s'est dit finalement, aujourd'hui, on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus tellement si, est-ce qu'il faut prendre l'avion ou pas? Est-ce que si on peut aller en train, c'est pas mieux que d'aller en avion? Est-ce que si on a un vélo, c'est pas mieux qu'une... Et tout ça, c'est toutes ces questions-là. On s'est imaginé cette position où de temps en temps on est coupable, de temps en temps on veut. En fait, il y a ceux qui veulent sauver leur peau, puis ceux qui veulent sauver la planète. Alors on s'est dit, tiens, si on créait des personnages et on les mettait en contact, des gens qui veulent sauver leur peau parce que c'est compliqué, et des gens qui veulent sauver le monde. Et finalement, c'est notre point commun avec les Américains. Eux, tous leurs films, ils veulent sauver le monde. Voilà, donc on s'est dit qu'on pouvait aller dans cette direction-là et que ça pourrait nous plaire et qu'on pourrait trouver une écriture.
Oui, Jonathan Cohen, il est arrivé tardivement sur le projet, c'est l'histoire des projets. On a écrit ce film en pensant à un autre acteur qui a dû se désister, mais un autre acteur qu'on retrouvera. Et voilà, c'est l'histoire de quoi des projets. Jonathan s'est imposé, c'est un acteur qu'on aimait beaucoup. Il a pris à bras le corps le scénario, il s'est impliqué. On a réécrit, on a recaréné le personnage avec lui. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Alors il y a des acteurs qui inspirent l'écriture, ça a été le cas pour Pio Marmaille. Et chemin faisant, on pense à des visages. Ça aide l'écriture, la voix de Mathieu Amalric, la façon de si singulière qu'il a de parler, ça nourrit notre scénario. Ensuite, on verra s'il accepte ou pas, mais en tout cas, on n'arrive pas à écrire sans penser à des acteurs. Et par chance, souvent, on a eu les acteurs qu'il fallait et les acteurs auxquels on avait pensé. Mais quand ça ne se passe pas, y a des surprises. Et Jonathan Cohen, c'est une agréable surprise pour ce film.
Deux choses sur Je m'attends. La première, c'est que quand on a été le voir, c'était pas prévu, il nous a dit que ça aurait été vraiment avec plaisir. Je peux essayer, mais je dois vous dire une chose, je finis un truc qui s'appelle Le Flambeau, là, et je suis au bout du rouleau, et on lui a dit, ça tombe bien, on a vraiment besoin d'un mec qui est au bout du rouleau, donc tu seras parfait. Et la deuxième chose, c'est qu'on est fan des comédies italiennes, et qu'on a besoin de gars qui savent dérider une situation ou dire une connerie qui, dans un moment vraiment grave, va être tout le côté italien des comédies. C'était vraiment d'être léger dans des moments graves. Et donc c'est vrai que on a imaginé comme modèle des Gassman, des Mastroianni, des Sordi, des Toniazzi, etc. Et que on trouvait qu'ils rentraient bien dans ce schéma-là, Pio et Jonathan comme truc. Évidemment, Noémie Merlant qui fait de ce duo un trio pour une fois, on fait rentrer enfin une femme dans des duos masculins parce qu'on en a fait beaucoup, et elle apporte tout son génie et toute sa réalité, toute sa vérité à ce personnage un peu torturé de cactus.
On se nourrit, les scénarios, notre histoire, elle se nourrit des extrêmes, des paradoxes, et ils finissent, ils sont chacun sur une rive d'un pont, pour reprendre la symbolique qui est dans le film, et ils se retrouvent un peu au milieu. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a intéressés, c'est ce qui nous a motivés. On s'est rendu compte qu'il y en a qui ont des maisons vides parce que les soucis sont passés, il y en a qui ont des maisons vides par choix, parce qu'ils veulent vivre avec moins, et ils pensent qu'on peut vivre mieux avec moins, et il y en a qui ils ont le même aussi, exactement le même mantra. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? C'est des questions qu'on peut se poser quand on est surconsommateur, et c'est des questions qu'on peut se poser quand on réfléchit à cette surconsommation et à comment on peut avancer dans un monde qui est finalement pas fini, quoi.
Et ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire qu'au fond, n'aurons de cesse que de prouver aux gens qu'ils pensent qu'ils sont tous très différents, quelles que soient les positions ou les rives du pont sur lesquelles ils sont, et qu'en vérité, il y a des proximités qu'ils ne veulent pas voir. Et nous, avec humour, sans message, sans culpabilisation, on va essayer de montrer les points communs. Peut-être qu'eux-mêmes n'avaient pas vu. Et c'est ça, effectivement, un surendetté va se poser les mêmes questions aujourd'hui qu'un écolo un peu extrême. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de repérer le commun chez les gens. Les films engagés, d'abord on est engagé par le sujet qu'on choisit. Donc déjà, quelqu'un qui choisit un sujet, il s'engage. S'il n'a pas envie de parler d'écologie, s'il n'a pas envie de parler de handicap, s'il n'a pas envie de parler d'autisme, s'il n'a pas envie de parler de fragilité, il ne fait pas en thérapie, il ne fait pas tous les films que, je ne vais pas citer nos films, mais c'est déjà un choix. Après, l'engagement, ça n'est pas de défendre une position et de l'imposer au spectateur en disant voilà comment il faut penser. Moi je pense que c'est vraiment l'inverse presque, c'est-à-dire que on soumet au spectateur mais sans être au-dessus de lui, sans avoir, on n'est pas des experts. L'artistique c'est plus quelqu'un qui sait observer, comme tu dis, et poser des questions, formuler des questions. Alors si moi je me pose des questions, j'ai besoin de les partager et j'ai besoin qu'on en discute. C'est pour ça qu'on fait une tournée avec 140 villes, parce qu'on en discute tous les soirs dans les salles avec les gens. Et c'est ça qu'on recherche. Mais je ne pense pas qu'on ait quelque chose à asséner au public en lui disant voilà comment il faudrait penser. Sinon, ce serait un cinéma de propagande. Nous, on pense qu'on peut proposer. Et je me rappelle d'une phrase de Billy Wilder qui disait pense toujours le spectateur comme quelqu'un d'intelligent, laisse-le toujours additionner 2 plus 2 et ne pas le prendre pour quelqu'un à qui tu dois apprendre quelque chose. Alors moi, je lui transmets ça. Et s'il a envie de réfléchir, d'en parler avec ses enfants, avec ses amis, eh ben, j'ai réussi l'entreprise que j'avais en tête, c'est-à-dire créer de la réflexion et de la question, mais vraiment pas plus que ça. Et je pense que c'est un manque d'humilité de penser qu'on peut imposer un message au spectateur, ce serait pas avoir une très grande considération pour lui.
Il y a un portrait collectif du milieu associatif qui est critiqué dans votre film. Comment à l'écriture, les personnages secondaires qui viennent compléter la triade de premier rôle, ils apparaissent justement pour tisser ce portrait-là? Parce que c'est vrai que dès la séquence d'ouverture, qui est purement cinématographique et vraiment impressionnante, on voit les rapports de force qui se constituent. Et ces personnages qui viennent équilibrer vraiment ce portrait-là, ils sont vraiment très importants parce qu'ils apportent vraiment du corps à ce milieu-là. Et ils représentent vraiment tous les rituels du milieu associatif.
Quand on sait qu'on aborde un sujet avec beaucoup de monde, alors avec des militants, avec un groupe de militants, on écrit de toute façon de façon assez générale et ensuite on fait des enquêtes, on fait des investigations et on va sur le terrain. On va sur le terrain avec une association d'ailleurs qui s'appelle un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion, qui nous a ouvert ses portes. Et donc on a, pour essayer de comprendre et pour essayer de nourrir nos dialogues et nos scénarios, parce que tous les deux avec Eric on a une petite maladie, c'est que on assiste à une scène, on voit quelque chose et tout de suite ça peut se transformer en cinéma, si j'ose dire. Et donc ça va assez vite et on va au contact. Par exemple, il y a un rôle au début qui s'appelait Antilope. Ce rôle-là, Antilope, parce qu'il se donne des pseudos. Mais quand on a commencé à rencontrer les gens, on s'est rendu compte qu'il y en avait plusieurs des Antilopes. Donc Pom Pom est né. Et c'est comme ça que ça marche. C'est au fil de l'écriture, vous dites tiens, on a ce personnage-là, mais c'est mieux si elles sont en binôme. C'est comme ça que ça marche. En fait, le scénario, c'est une mouvante. C'est pas rien de figé, au contraire, tout doit être. C'est ouvert. Plus on avance, et sur le tournage aussi, on rencontre des gens, on va faire des castings dans les milieux associatifs, il y a quelqu'un qui va nous stimuler. On rencontre Sirène, Solange, elle nous inspire, on transforme le rôle. Sirène s'appelle Solange. Et donc on s'inspire, on avance comme ça, jusqu'à essayer de trouver pour nous ce qui est le meilleur film possible. Donc on est assez ouverts tous les deux, on laisse place aux doutes, on laisse place aux observations, on laisse place à l'écoute aux autres. C'est comme ça qu'on avance.
De façon basique, j'ai l'impression qu'on a toujours envisagé le cinéma comme des bonnes musiques sur des bonnes scènes. Et les musiques, elles font se lever les scènes. Alors là, on s'est particulièrement amusé parce qu'on est parti chercher dans les années 70 les best de nos panthéons. Je pense que ce qui était affiché dans notre chambre, même dans les années 80, c'est-à-dire les Doors, Jimi Hendrix, il y a un remake de David Bowie fait par Yarol Poupeau qui s'appelle Stay. Il y a du Jacques Brel, il y a du Sister Sledge, c'est ça, avec le fric c'est chic. Il y a même une reprise de Jacques Brel par Yuri Buenaventura, Ne me quitte pas, avec une danse endiablée. Donc c'est un des acteurs, la musique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un film sans penser la musique du film. On n'a pas réussi à trouver encore un musicien de cinéma qui nous accorde des scores, à part Ludovico Einaudi dans Intouchables. Évidemment, et qui on s'est très bien entendu, mais on a souvent pris Avishai Cohen, on a souvent pris des gens qu'on admirait, et on a associé leur talent au film, et c'est ça qui nous a toujours motivés. Mais les musiques, si vous voulez, on y pense peut-être au moment de l'écriture, on y pense autant qu'aux acteurs, autant qu'au dialogue. Il n'y a vraiment aucune hiérarchie, et la musique est très importante. Et puis, il y a vraiment une particularité sur celui-là, c'est que The End, La dernière fois qu'on l'avait entendu, c'était dans Apocalypse Now. Donc voilà, c'était un petit plaisir d'avoir l'accord, parce qu'il faut quand même toujours l'accord des ayants droit. C'est-à-dire qu'il faut toujours quand même trouver les gens. Et c'est quand même toujours assez hallucinant de se dire que nous deux, avec nos petits parcours de banlieusards parisiens, on se met à demander aux enfants de Raymond Zarek ou de Jimi Hendrix l'autorisation d'utiliser leur musique.
J'ai une question, c'est peut-être plus factuelle par rapport au personnage qui incarne Claude Marmaille. Il me faisait penser au personnage qui incarne chez Catherine Torsier dans La Fracture. Et il y a une scène, alors sans effleurer, comme ce soit du film, où il rencontre une infirmière, justement, qui me semble jouer.
C'est oui, tout à fait.
Exactement. Moi, j'ai une question très lapidaire, est-ce que c'est le même personnage?
Non, Pio, c'est pas le même personnage que La Fracture, évidemment.
Tout à fait, évidemment.
C'est un gilet jaune, hein, dans La Fracture, c'est un gilet jaune. Non, là, on l'a théorisé. Pio Marmaille comme étant sous la ligne de flottaison. C'est-à-dire que, vous savez, quand les gens descendent, puis qu'à un moment, ils ont carrément plus où dormir, et que la honte de la dette fait que, même vis-à-vis de la famille, etc., et donc, il y a cette espèce de double, presque de schizophrénie, de dire, je suis encore dans le travail, parce qu'il bosse, mais il a un reste à vivre négatif, et donc, c'est, le personnage est, oui, il a une cousillade, je suis d'accord avec La Fracture, parce que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la précarité et de la solitude, du combat au quotidien.
Il y a quelque chose, c'est que c'est un acteur qui est très beau,
très physique.
Il est très physique. On voit bien qu'il fait monter la température très vite dans une pièce. Voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose de très social, de très populaire. Et ça, cette double nationalité-là, je comprends qu'elle inspire beaucoup de metteurs en scène, dont nous. Donc c'est pour ça que bon, c'est vrai que dans La Fracture, il y a quelque chose de commun.
Mais
je pense qu'on n'est pas au bout de ce genre de
personnage-là. Il enchaîne les films, hein, Pio. Il n'arrête plus, il est parti. Hein.
C'est la réplique qu'il disait dans l'hôpital, où il disait, je leur en ai déjà parlé, qu'il m'avait dit, ça se trouve,
ah,
c'est
oui,
une
oui.
prolongation, justement.
Non, mais c'est vrai qu'on a vu La Fracture au moment où Pio nous l'a montré avec Catherine Corsini, et qu'on a vu aussi l'actrice qui joue l'infirmière, et qu'on a dit, bah, ce serait formidable, oui. Soir. Qui a d'ailleurs été à Cannes aussi, et qui est dans le deuxième.
C'est en faisant nos enquêtes dans les ateliers budgétaires, on a fait tous les deux des ateliers d'éducation budgétaire.
Ça, c'est pour les gens qui sont victimes de surendettement, qui sont aidés par des associations.
Et on s'est rendu compte que les bénévoles aussi avaient un parcours de vie, et certains bénévoles étaient passés par là, et dont des bénévoles qui ont eu cette addiction au jeu. Ils essayent d'en guérir les gens qui viennent, mais ils ont aussi cette addiction. Donc nous, évidemment, on a poussé le curseur de la comédie avec cet acteur qui est absolument fantastique, qui est fou, qui est Mathieu Amalric, et on s'est beaucoup amusé avec lui pour faire ces petites... Et d'ailleurs, ne partez pas avant la fin du générique.
Et l'année n'est facile pour personne, et donc on voulait pas que lui soit au-dessus. Il n'y a vraiment jamais d'hiérarchie dans les films. Pour nous, même ceux qui veulent aider viennent de quelque chose de fragile. C'est un des dialogues aussi dans Thérapie où à un moment Jacques Weber partait et disait « Je ne vais pas venir, vous croyez que je suis quelqu'un de fragile ?» Et d'ailleurs répondait « Et si vous l'étiez, qu'est-ce que ça pourrait faire ?» J'ai l'impression qu'il a tout résumé du cinéma qu'on a envie de faire. « Si vous étiez fragile, qu'est-ce que ça peut faire ?» On est tous fragiles et c'est pas grave. C'est pas grave. Rassurez-vous.
C'est pour ça qu'il faut dire à vos auditeurs, spectateurs, de ne pas
partir
avant la fin du film.
Y a
comme pour un Marvel.
Toujours dans une forme de psy, je pense qu'on a du mal à quitter le film et que même dans le générique, on veut quand même mettre des images, on ne veut pas partir. Et ça, c'est quelqu'un qui me l'avait dit, c'est Philippe Rouillet, quand on avait fait l'hommage aux exploitants. Il disait souvent, on sent que vous avez envie de démarrer vite, c'est-à-dire que vous ne faites pas d'intro et que vous ne voulez pas partir. Ben c'est vrai, c'est notre rapport au cinéma. On est tellement heureux d'en faire, tellement privilégié, et on en a conscience que c'est comme une soirée, quoi. On n'a pas envie de partir.
C'est pas un film sur le Covid, mais allez le voir, vous y retrouverez peut-être quelque chose.
Car je peux le dire, il y a un Orléanais dans le film. Mais c'est un cerf. Un grand cerf dans la forêt. Et maintenant,
une chanson.
Monsieur Thierry Laurentin va nous chanter une chanson de Chantal Goya, Un grand cerf dans la forêt.
Graffiti Cinéma cette semaine, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec des émissions intégralement inédites. Deux émissions inédites tournées au dernier festival de l'Orléans-Bière en 2023, puis une émission réalisée avec la Brigade Cinéphile du Cinéma Les Carmes. Voilà vos trois prochaines émissions dans les semaines qui vont venir avant un tout nouveau thème qu'on vous présentera sur nos réseaux. Bonne semaine de cinéma à tous et à bientôt.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça?
Hein?